Chapitre 24. Charles d'Anjou. Il y a à un mille à peu près de Palerme, sur les bords de l'Aurette et près du Campo Santo actuel, une petite église qu'on appelle l'église du Saint-Esprit. Elle n'a rien de remarquable sous le rapport de l'art, mais elle garde pour les palermitains un grand souvenir. C'est à la porte de cette église qu'est commença le massacre des vêpres siciliennes. Aussi n'avions-nous garde de manquer à lui faire notre visite. Que ceux qui m'ont suivi dans mes excursions pittoresques veuillent bien m'accompagner un instant dans cette excursion historique. La chose en vaut la peine. Le pape Alexandre IV venait de mourir. La bataille de Monte Aperto, au succès de laquelle Manfred avait concouru en envoyant 1000 de ses cavaliers en aide aux Gibelins, avait consolidé la puissance impériale en Italie et avait placé Manfred à la tête du parti aristocratique. Urbain IV, en montant sur le trône pontifical, vit que s'il voulait rendre à Rome son ancienne suprématie, c'était Manfred qu'il fallait frapper. La chose était d'autant plus facile que Manfred donnait par sa conduite grand prise à la censure ecclésiastique. On le soupçonnait d'avoir accéléré la mort de son frère Frédéric II et de son frère Conrad. En outre, au lieu de combattre les Sarrasins partout où il les rencontrait, comme l'avaient fait ses prédécesseurs normands, il s'était allié avec eux et il avait un corps d'infanterie et de cavalerie arabe dans son armée. Urbain IV, de son côté, devait être plus qu'aucun autre de ses prédécesseurs porté à soutenir le parti guelf de tout son pouvoir. Né à Troyes, en Champagne, dans les derniers rangs du peuple, il avait grandi soutenu par son seul génie. Évêque de Verdun d'abord, puis patriarche de Jérusalem, il était revenu en 1261 de la Terre Sainte et avait trouvé le Saint-Siège vacant. 8 cardinaux, dernier reste du Sacré Collège, étaient réunis en conclave pour élire un successeur à Alexandre IV et venaient de passer 3 mois à essayer inutilement de réunir la majorité sur l'un d'entre eux. Lassé de ces tentatives infructueuses, un des votants mit sur son billet le nom du patriarche de Jérusalem. Au scrutin suivant, ce nom réunit la majorité et l'élu du sort devint le vicaire de Dieu sous le nom d'Urbain IV. Il était temps que l'interrègne cessât. Des fenêtres du Vatican, le nouveau pape pouvait voir les Sarrasins errant dans la campagne de Rome. Urbain IV non seulement leur ordonna d'en sortir, mais encore, les traitant comme leurs frères d'Afrique et de Syrie, il publia une croisade contre eux. Quelques-uns disent même que, couverts d'une cuirasse et le visage voilé par un casque, ils prirent rang parmi les chevaliers et, joignant le tranchant du glaive à la force de la parole, il les repoussa de sa main au-delà des frontières du Saint-Siège. Mais Urbain n'était pas homme à s'arrêter là. Manfred apprit en même temps que ses soldats avaient été repoussés et qu'il était cité à comparaître devant le pape pour rendre compte de sa liaison avec les Sarrasins, de son obstination à faire exécuter les saints mystères dans les lieux interdits, et des exécutions de 2 ou 3 de ses sujets, exécutions que la bulle pontificale qualifiait de meurtre. Manfred, comme on le pense bien, se rit de cet ordre et refusa d'obéir. Alors Urbain IV se tourna vers la France, son pays natal. Le saint roi Louis régnait. Le pape lui offrit le royaume de Sicile pour lui ou pour un de ses fils. Mais Louis avait un cœur d'or. C'était la loyauté, la noblesse et la justice faite homme. Tout en révérant les décisions du Saint-Pierre, il lui sembla instinctivement qu'il n'avait pas le droit de prendre une couronne posée légitimement sur la tête d'un autre, et dont à défaut de cet autre, son neveu était héritier. Il exprima des scrupules qu'une longue lettre d'Urbain IV ne put vaincre. Le pape alors se tourna vers Charles d'Anjou, frère du roi, et lui envoya le bref d'investiture. Charles d'Anjou était une des puissantes organisations du XIIIe siècle, qui a vu naître tant d'hommes de fer. Il pouvait avoir à cette époque 48 ans environ. C'était le frère puiné de Saint-Louis, avec lequel il avait fait la croisade d'Égypte, et dont il avait partagé la captivité à Mansoura. Il avait épousé Béatrix, la 4e fille de Raymond Béranger, qui avait marié les 3 autres, l'aînée, Marguerite, à Louis IX. Roi de France, la seconde, Léonore, à Henri III, roi d'Angleterre, et la troisième, à Richard, duc de Cornouailles et roi des Romains. Charles d'Anjou était donc, après le roi régnant, un des plus puissants princes du monde, car, comme fils de France, il possédait le duché d'Anjou et, comme mari de Béatrix, il avait hérité du comté de Provence. En outre, dit Jean Villani, son historien, c'était un homme sage et prudent au conseil, preux et fort dans les armes, sévère et redouté des rois eux-mêmes, car il avait de hautes pensées qui l'élevaient aux plus hautes entreprises, car il était persévérant dans le bonheur et inébranlable dans l'adversité, car il était ferme et fidèle dans ses promesses, parlant peu, agissant beaucoup, ne riant presque jamais, ne prenant plaisir ni aux mimes, ni aux troubadours, ni aux courtisans, décent et grave comme un religieux, zélé catholique et apte à rendre justice. Sa taille était haute et nerveuse, son teint olivâtre, son regard terrible. Il paraissait fait plus qu'aucun autre seigneur pour la majesté royale, demeurait 12 ou 15 heures à cheval, couvert de son harnais de guerre, sans paraître fatigué, ne dormait presque point et s'éveillait toujours prêt au conseil ou au combat. Voilà l'homme sur lequel Urbain IV, dans son instinct de haine contre les Gibelins, avait jeté les yeux. Simon, cardinal de Sainte-Cécile, partit pour la France et, au nom du pape, lui remit le bref d'investiture. Charles d'Anjou tenait ce bref à la main. Lorsqu'en rentrant chez lui, il trouva sa femme en pleurs. Cette douleur l'étonna, d'autant plus que Béatrix avait près d'elle, à cette époque, les deux sœurs qu'elle aimait le plus, Marguerite et Léonore. En apercevant son mari, qu'elle n'attendait point, elle essaya de cacher ses larmes. Mais ce fut inutilement. Charles lui demanda ce qu'elle avait. Au lieu de lui répondre, Béatrix éclata en sanglots. Charles insista plus fortement encore, et alors Béatrix lui raconta que quelques minutes auparavant, elle avait été faire une visite à ses deux sœurs, et qu'après les avoir embrassées, elle avait voulu s'asseoir auprès d'elle sur un fauteuil pareil au leur, mais qu'alors la reine d'Angleterre lui avait tiré ce fauteuil des mains et lui avait dit « Vous ne pouvez vous asseoir sur un siège pareil au nôtre, prenez donc un tabouret ou tout au plus une chaise. » Car ma sœur est reine de France et moi je suis reine d'Angleterre, tandis que vous n'êtes, vous, que duchesse d'Anjou et comtesse de Provence. » Charles d'Anjou laissa errer sur ses lèvres un de ces sourires rares et amers qui assombrissaient son visage au lieu de l'éclairer. Et, ayant embrassé Béatrix, il lui dit « Allez retrouver vos sœurs, asseyez-vous sur un siège pareil à leur siège, car si elles sont reines de France et d'Angleterre, vous êtes, vous, reine de Naples et de Sicile. » Mais ce n'est pas le tout de prendre un vain titre. Il fallait en réalité conquérir le trône auquel ce titre était attaché. Charles leva un impôt sur ses vassaux d'Anjou et de Provence. Béatrix vendit tous ses bijoux à l'exception de son anneau de mariage. Saint Louis lui-même, désireux de voir son frère occuper ailleurs qu'en France son esprit actif et entreprenant, vint à son aide. Et Charles, grâce à tous ses moyens réunis, aux promesses qu'il fit, et dont son honneur et son courage étaient les garants, parvint à réunir une armée de 5 000 chevaux, 15 000 fantassins et 10 000 arbalétriers. Mais dans la hâte qu'il avait d'arriver à Rome et de remplir dans la ville pontificale l'office de sénateur, qui lui avait été déféré, il prit avec lui 1 000 chevaliers seulement, s'embarqua sur une petite flotte de 20 galères qu'il tenait prête, et fit voile pour Ostie, laissant la conduite de son armée à Robert de Béthune, son gendre. Manfred plaça à l'embouchure du Tibre le comte Guido Novello, qui commandait pour lui en Toscane. Le comte Guido Novello, qui gouvernait les galères réunies de Pise et de Sicile, avait une flotte triple de celle de Charles d'Anjou. Mais Dieu avait décidé que Charles d'Anjou serait roi. Il ouvrit la main et en laissa tomber la tempête. La tempête faillit jeter la flotte de Charles d'Anjou sur les côtes de Toscane, mais elle éloigna celle de Guido Novello des côtes romaines. Charles d'Anjou poussa en avant avec son vaisseau, aborda seul à Ostie, puis, se jetant sur une barque avec 5 ou 6 chevaliers seulement, il remonta le Tibre et vint loger au couvent de Saint-Paul hors les murs, bien plus comme un fugitif que comme un conquérant. Pendant ce temps, Urbain IV était mort, mais, poursuivant son projet au-delà de sa vie, il avait, avant de mourir, créé une 20aine de cardinaux auxquels il avait fait jurer de lui donner pour successeur le cardinal de Narbonne, français comme lui, et de plus sujet immédiat de Charles d'Anjou. Les cardinaux avaient tenu parole, et Guido Fulco, élu presque à l'unanimité, pendant le temps même qu'il était en mission près de Charles, était monté sur le trône pontifical en prenant le nom de Clément IV. Charles avait donc la certitude d'être bien reçu à Rome. Seulement, il n'y voulait faire son entrée qu'avec une suite digne d'un prince tel que lui. Il resta donc au couvent de Saint-Paul-hors-les-Murs, au risque d'être enlevé par quelques parties de Gibelin, jusqu'au moment où les galères, qu'il avait perdues dans la mer de Toscane, arrivèrent à leur tour à Ostie. Charles assembla aussitôt ses chevaliers, et le 24 mai 1265, il fit son entrée dans la capitale du monde chrétien avec le titre solennel de défenseur de l'Église. Pendant ce temps, le reste de l'armée passait les Alpes, descendait dans le Piémont, traversait le Milanais, évitait Florence la Gibeline, gagnait Ferrare, et se recrutant partout des guelfes qu'elle rencontrait sur son chemin, arrivait devant Rome dans les derniers jours de l'année 1265. Il était temps. Tous les sacrifices avaient été faits pour l'amener là. Charles d'Anjou et le pape y avaient épuisé leur trésor. Tous deux manquaient d'argent. Il n'y avait donc pas une minute à perdre, il fallait marcher à l'ennemi et payer les soldats par une victoire. Charles d'Anjou ne voulut pas même attendre le retour du printemps. Il se mit à la tête de son armée, et dans les premiers jours de février, il s'avança vers Naples par la route de Ferentino. En arrivant à Ceperano, les Français aperçurent les avant-postes ennemis, commandés par le comte de Caserte, beau-frère de Manfred. Il défendait un passage du Garigliano, admirablement fortifié par la nature. Les Français examinèrent la position et reconnurent sa supériorité. Décidés toutefois à traverser le fleuve, ils n'en mâchèrent pas moins à l'ennemi. Mais l'ennemi ne les attendit pas, et à leur grand étonnement leur livra le passage. Alors Charles d'Anjou reconnut qu'il y avait folie ou trahison parmi les lieutenants de Manfred, et en remercia Dieu tout haut. Le fleuve fut donc franchi sans que l'on frappât un coup de lance, et l'on s'avança vers les deux forteresses de Rocca et de San Germano. Celles-ci n'étaient point défendues par des Napolitains, mais par des Arabes. Aussi la lutte fut-elle longue et sanglante. Enfin, toutes deux furent escaladées, et comme les Sarrasins qui les défendaient ne purent pas fuir et dédaignèrent de se rendre, ils furent massacrés jusqu'au dernier. À la nouvelle de ces deux succès si inattendus, le découragement se mit parmi les Apuliens. Aquino ouvrit ses portes. Les gorges d'Alif furent livrées, et Charles et ses soldats débouchèrent dans les plaines de Bénévent, où les attendaient Manfred et son armée. On peut dire, sans exagération aucune, que l'Europe tout entière avait les yeux fixés sur ce petit coin de terre, où allait se décider la grande question, Guelph et Gibeline, qui séparait l'Italie et l'Allemagne depuis un siècle et demi. C'était le pape et l'empereur, aux mains dans la personne de leur lieutenant, et ces lieutenants étaient non seulement deux des plus grands princes, mais encore deux des plus braves capitaines qui fussent au monde. Aussi ni l'un ni l'autre ne faillirent à leur renommée ni à leur destin. Charles d'Anjou, en apercevant les soldats de Manfred, se retourna vers ses chevaliers et dit « Comte, baron, chevalier et homme d'armes, voici le jour que nous avons tant désiré. Donc, au nom de Dieu et de notre Saint-Père le Pape, en avant. » Et alors il fit 4 brigades de sa cavalerie. La première, qui était de 1000 chevaliers français commandés par Guy de Montfort et le maréchal de Mirepoix. La seconde, qui était de 900 chevaliers provençaux et des auxiliaires romains, qu'il se réserva de mener lui-même. La troisième, qui était de 700 chevaliers flamands, Brabançon et Picard, et qui fut mise sous les ordres de Robert de Flandre et de Gilles Lebrun, connétable de France. Enfin la quatrième, qui se composait de 400 émigrés florentins, vieux débris de Monte Aperto, et que conduisait Guido Guerre, cet éternel ennemi des Gibelins. Lorsque Manfred aperçut de son côté les troupes françaises, il s'arma, à l'exception de son casque, dont il attacha lui-même le cimier, qui était un aigle d'argent, afin de n'avoir plus qu'à le mettre sur sa tête. Puis, montant à cheval, il s'avança au milieu de ses capitaines en disant « Comtes et barons, c'est ici qu'il me faut vaincre en roi ou mourir en chevalier. Quoique ce ne soit pas l'avis de quelques-uns de vous, je le sais. Je ne ferai donc pas un pas pour éviter la bataille. Appareillez-vous sans plus tarder, car voici les Français qui viennent à nous. » et au même instant, il disposa son armée en 3 brigades. La première de 1200 chevaux allemands, commandée par le comte Giordano Lancia, et la troisième de 1400 chevaux apuliens et sarrasins, dont il se réserva le commandement pour lui-même. On voit que pour l'un et l'autre partie, les historiens ne font aucun compte de l'infanterie. Le fleuve Calore, qui coule devant Bénévent, séparait les deux armées. Au moment où Manfred prit ses dispositions pour soutenir la bataille et où il devint évident pour les Français qu'ils allaient en venir aux mains avec leurs ennemis, le légat du pape monta sur un bouclier que 4 hommes élevèrent sur leurs épaules. Puis il bénit Charles d'Anjou et ses chevaliers, donnant à chacun l'absolution de ses péchés, et tous la reçurent à genoux, comme devaient le faire des chevaliers du Christ et des défenseurs de l'Église. Les Français s'avancèrent vers la rivière avec lenteur et précaution, car ils ignoraient par quels moyens ils pourraient la franchir. Lorsqu'ils virent les archers sarrasins qui leur en épargnaient la peine en la traversant eux-mêmes et en venant au-devant d'eux, ces archers sarrasins passaient avec les Anglais pour les plus adroits tireurs de la terre, et ils étaient bien autrement légers et rapides que ceux-ci. Aussi l'infanterie française, mal armée, sans cuirasse, et ayant à peine quelques jacques rembourrées et quelques casques en cuir, ne put-elle tenir contre la nuée de flèches que les voltigeurs arabes firent pleuvoir sur elle, et se retira-t-elle en désordre. Alors Guy de Montfort, le maréchal de Mirepoix, craignant que cet échec n'ébranlât la confiance du reste de l'armée, fondirent sur les archers avec la première brigade en criant « Montjoie, chevalier !» Les archers n'essayèrent pas même de résister à cette avalanche de fer qui roulait sur eux. Ils se dispersèrent dans la plaine, fuyant mais tirant toujours. Les chevaliers français, ardents à leur poursuite, commencèrent à se débander. Alors le comte de Galvano, qui commandait la première brigade, pensant que le moment était venu de charger ses troupes en désordre, leva sa lance en criant « Souab, souab, chevalier !» et descendant à son tour dans la plaine, vint donner dans le flanc de la brigade française, qu'il coupa presque en deux. Mais aussitôt le comte de Galvano se vit chargé lui-même par Guido Guerra et ses guelfes. En même temps, le cri « aux chevaux » circula dans les brigades françaises et florentines. Les chevaliers de Charles d'Anjou commencèrent à frapper les animaux au lieu de frapper les hommes. Les chevaux, moins bien armés que les cavaliers, se renversèrent les uns sur les autres. Le trouble commença de se mettre parmi les cavaliers allemands. La seconde brigade de Manfred, commandée par le comte Giordano Lancia et composée de Toscans et de Lombards, vint à leur secours. Mais leur charge, mal dirigée, rencontra les Allemands qui commençaient à fuir, et au lieu de rétablir le combat, ne fit qu'augmenter le désordre. En ce moment, Charles d'Anjou fit passer l'ordre à sa 3e brigade de donner. Les Allemands, les Lombards et les Toscans de Manfred se trouvèrent presque enveloppés. Au milieu de tout cela, on reconnaissait les Guelfes qui, ayant avengé la défaite de Monteaperto, faisaient merveille et frappaient les plus rudes coups. Les archers sarrasins étaient devenus inutiles, car la mêlée était telle que leurs flèches tombaient également sur les Allemands et sur les Français. Manfred pensa qu'il ne fallait rien moins que sa présence et celle de 1200 hommes de troupes fraîches qu'il s'était réservées pour rétablir la bataille, et ordonna à ses capitaines de se préparer à le suivre. Mais au lieu de le seconder, les barons de la Pouille, le grand trésorier comte de la Serre et le comte de Caserte, tournèrent bride et s'enfuirent, entraînant avec eux 900 hommes à peu près. C'est alors que Manfred vit que l'heure était venue, non plus de vaincre en roi, mais de mourir en chevalier. Ayant regardé autour de lui et voyant qu'il lui restait encore environ 300 lances, il prit son casque des mains de son écuyer, mais au moment où il le posait sur sa tête, l'aigle d'argent qui en formait le cimier tomba sur l'arçon de sa selle. « C'est un signe de Dieu, » murmura Manfred. J'avais attaché ce cimier de mes propres mains, et ce n'est point le hasard qui le détache. N'importe. En avant, Souab, chevalier. Et abaissant sa visière et mettant sa lance en arrêt, il alla donner dans le plus épais de l'armée française, où il disparut, n'ayant plus rien qui le distingua des autres hommes d'armes. Bientôt la lutte s'affaiblit de la part des Allemands. Les Toscans et les Lombards lâchèrent pied. Charles d'Anjou, avec ses 900 chevaliers provençaux, se rua sur ceux qui tenaient encore. Les Gibelins, sans chef, sans ordre, appelant Manfred qui ne répondait pas, prirent la fuite, Les vainqueurs les poursuivirent pêle-mêle et traversèrent Bénévent avec eux. Nul n'essaya de rallier les vaincus, et en un seul jour, en une seule bataille, en 5 heures à peine, la couronne de Naples et de Sicile échappa aux mains de la maison de Souabe et roula aux pieds de Charles d'Anjou. Les Français ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent las de tuer. Leur perte avait été grande, mais celle des Gibelins fut terrible. Pierre des Huberti et Giordano Lancia furent pris vivants. La sœur de Manfred, sa femme Sibylle et ses enfants furent livrés et s'en allèrent mourir dans les cachots de la Provence. Enfin, cette belle armée, si pleine de courage et d'espoir le matin, semblait s'être évanouie comme une vapeur, et il n'en restait que les cadavres couchés sur le champ de bataille. Pendant les 3 jours, on chercha Manfred, car la victoire de Charles d'Anjou était incomplète si l'on ne retrouvait Manfred mort ou vif. Pendant 3 jours, on examina un à un les chevaliers qui avaient été tués. Enfin, un valet allemand le reconnut, mit son cadavre en travers sur un âne et l'amena à Bénévent, dans la maison qu'habitait Charles. Mais comme Charles ne connaissait pas Manfred et craignait qu'on ne le trompât, il ordonna de coucher ce cadavre tout nu au milieu d'une grande salle. Puis il appela près de lui Giordano Lancia. Pendant qu'on obéissait à son ordre, Charles tira une chaise près du cadavre et s'assit pour le regarder. Il avait 2 larges et profondes blessures, l'une à la gorge, l'autre au côté droit de la poitrine, et des meurtrissures partout le corps, ce qui indiquait qu'il avait reçu un grand nombre de coups avant de tomber. Pendant l'examen que faisait Charles de ce corps tout mutilé, la porte s'ouvrit, et Giordano Lancia apparut. À peine eut-il jeté un coup d'œil sur le cadavre, quoiqu'il eût le visage couvert de sang, qu'il s'écria en se frappant le front, « Ô mon maître, que sommes-nous devenus ?» Charles d'Anjou n'en demanda point davantage. Il savait tout ce qu'il désirait savoir. Ce cadavre était bien celui de Manfred. Alors les chevaliers français qui avaient été quérir Giordano Lancia et qui étaient entrés derrière lui, demandèrent à Charles d'Anjou de faire au moins enterrer en Terre Sainte celui qui, 3 jours auparavant, était encore roi de 2 royaumes. Mais Charles d'Anjou répondit, « Ainsi ferais-je volontiers, mais comme il est excommunié, je ne le puis. » Les chevaliers courbèrent la tête, car ce que disait Charles était vrai, et la malédiction pontificale poursuivait l'excommunié jusqu'au-delà de la mort. On se contenta donc de lui creuser une fosse au pied du pont de Bénévent, et de rejeter la terre sur lui, sans mettre sur cette tombe isolée aucune marque de ce qu'avait été celui qu'elle renfermait. Cependant, les vainqueurs, ne pouvant souffrir que le lieu où reposait un si grand capitaine restât ignoré, chaque soldat prit une pierre, et alla la déposer sur sa fosse, mais le légat ne voulut même pas permettre que les restes de Manfred reposassent sous ce monument élevé par la pitié de ses ennemis. Il fit exhumer le cadavre, et, ayant ordonné qu'on le portât hors des États romains, le fit jeter sur les bords de la rivière Verte, où il fut dévoré par les corbeaux et par les animaux de proie. Avec Charles d'Anjou, le pape, et par conséquent les Guelfes, triomphaient par toute l'Italie. C'était à Florence qu'était pour le moment la puissance gibeline. Une révolte qui s'éleva le jour même où l'on apprit la bataille de Bénévent la renversa. Puis, pour ne lui laisser ni le temps ni les moyens de se reconnaître, Charles d'Anjou envoya un de ses lieutenants en Sicile et marcha sur Florence. Florence leur ouvrit ses portes comme elle devait le faire 200 ans plus tard à Charles VIII. Florence lui donna des fêtes. Florence le conduisit voir en grande pompe son tableau de la Madone que venait d'achever Cimabue. Pendant ce temps, les capitaines français se partageaient le royaume, et les soldats pillaient les villes. Cette conduite, qui devait dépopulariser promptement le nouveau roi, rendit quelque espoir aux Gibelins. Ils tournèrent les yeux vers l'Allemagne. Là était la seule étoile qui brilla dans leur ciel. Conradin, fils de Conrad, petit-fils de Frédéric, neveu de Manfred, élevé à la cour de son aïeul le duc de Bavière, venait d'atteindre sa 16e année. C'était un jeune homme plein d'âme et de cœur, qui n'attendait que le moment de régner ou de mourir. Il bondit de joie et d'espérance lorsque le message des Gibelins lui annoncèrent que ce moment était venu. Sa mère, Élisabeth, l'avait élevé pour le trône. C'était une femme au noble cœur et à la puissante pensée. Elle vit avec douleur arriver ses messagers. Mais loin de mettre son amour maternel entre eux et son fils, elle laissa les hommes décider de ces choses souveraines dont les hommes seuls doivent être les arbitres. il fut décidé que Conradin marcherait à la tête des Gibelins et, soutenu par l'empereur, tenterait de reconquérir le royaume de ses pères. Toute la noblesse d'Allemagne accourut autour de Conradin. Frédéric, duc d'Autriche, orphelin comme lui, dépouillé de ses états comme lui, jeune et courageux comme lui, s'offrit pour être son second dans ce terrible duel. Conradin accepta. Les deux jeunes gens jurèrent que rien ne les pourrait séparer, pas même la mort. Se mirent à la tête de 10 000 hommes de cavalerie, rassemblés par les soins de l'empereur, du duc de Bavière et du comte de Tyrol, et arrivèrent à Vérone vers la fin de l'année 1267. Charles d'Anjou avait d'abord l'intention de fermer le passage de Rome à son jeune rival et de l'attendre entre Luc et Pise, appuyé de toute la puissance des guelfes de Florence. Mais les exactions de ses ministres, les violences de ses capitaines et le pillage de ses soldats avaient excité une révolte dans ses nouveaux états. Il avait écrit à Clément IV de l'aider de sa parole et de son trésor. Mais Clément, indigné lui-même de ce qui se passait presque sous ses yeux, lui avait répondu « Si ton royaume est cruellement spolié par tes ministres, c'est à toi seul qu'on doit s'en prendre, puisque tu as conféré tous les emplois à des brigands et à des assassins, qui commettent dans tes états des actions dont Dieu ne peut supporter la vue. Ces hommes infâmes ne craignent pas de se souiller par des viols, des adultères, d'injustes exactions et toutes sortes de brigandages. Tu cherches à m'attendrir sur ta pauvreté, mais comment puis-je y croire? Et quoi, tu peux ou tu ne sais pas vivre avec les revenus d'un royaume dont l'abondance fournissait à un souverain tel que Frédéric, déjà empereur des Romains, de quoi satisfaire à des dépenses plus grandes que les tiennes, de quoi rassasier l'avidité de la Lombardie, de la Toscane, des deux marches et de l'Allemagne entière, et qui lui donnait en outre les moyens d'accumuler d'immenses richesses. Force avait donc été à Charles d'Anjou de revenir à Naples et d'abandonner le pape, qui l'abandonnait. Quant à la révolte, à peine de retour dans sa capitale, il l'avait prise corps à corps et l'avait vite étouffée entre ses bras de fer. Clément IV, qui ne pouvait pas compter sur Rome, mal fortifié et incapable de soutenir un siège, se retira à Viterbe. De là, il envoya 3 fois à Conradin l'ordre de licencier son armée et de venir pieds nus recevoir, aux genoux du prince des apôtres, la sentence qu'il lui plairait de porter contre lui. Mais le fier jeune homme, tout enivré des acclamations qui l'avaient accueilli à Pise, et qui de Pise le suivait jusqu'à Sienne, n'avait pas même daigné répondre aux lettres du Saint-Père. Et Clément, le jour de Pâques, avait prononcé la sentence d'excommunication contre lui et ses partisans, qui le déclaraient déchu du titre de roi de Jérusalem, le seul que lui eussent laissé son oncle Manfred en le dépouillant de ses états, et qui déliait ses vassaux de leur serment de fidélité. Quelques jours après, on va annoncer à Clément IV que Conradin venait de battre à Pontavalle Guillaume de Belsève, maréchal de Charles. Clément était en prière. Il releva la tête et se contenta de prononcer ces mots. Les efforts de l'impie se dissiperont en fumée. Le surlendemain, on vint dire au pape que l'armée gibeline était en vue de la ville. Le pape monta sur les remparts et de là il vit Conradin et Frédéric qui, n'osant pas l'attaquer, faisaient du moins passer orgueilleusement leurs 10 000 hommes sous ses yeux. Un des cardinaux, effrayé de voir tant de braves hommes d'armes, de fière mine, s'écria alors « Oh mon Dieu, quelle puissante armée !»« Ce n'est point une armée, répondit Clément IV, c'est un troupeau que l'on mène au sacrifice. » Clément avait parlé au nom du Seigneur et le Seigneur devait ratifier ce qu'il avait dit. Comme l'avait prévu Clément, Rome ne fit aucune résistance. Le sénateur Henri de Castille vint ouvrir la porte de ses propres mains. Conradin s'arrêta 8 jours dans la capitale du monde chrétien pour y faire reposer son armée et retrouver les trésors que son approche avait fait enfouir dans les églises. Puis, à la tête de 5 000 gendarmes, il passa sous Tivoli, traversa le val de Selle et entra dans la plaine de Tagliacozzo. C'était là que l'attendait Charles d'Anjou. Malgré le besoin que le prince français aurait eu en pareille occasion de toutes ses bonnes lances, il n'avait pu les réunir autour de lui, forcé qu'il avait été de mettre des garnisons dans toutes les villes de Calabre et de Sicile. Mais il avait tourné les yeux vers un allié tout naturel. C'était Guillaume de Villehardouin, prince de Morée. Il lui avait donc écrit pour lui demander du secours. Et Villehardouin, traversant l'Adriatique, était accouru avec 300 hommes. Villardouin était près de Charles d'Anjou, avec son grand connectable Jadi et messire Jean de Tournai, seigneur de Calavrite, lorsqu'on commença d'apercevoir l'armée de Conradin. Vêtu d'un costume léger, moitié grec, moitié français, montant un de ces rapides coursiers des Lides, dont Homer vante la vélocité, il demanda à Charles d'Anjou la permission de partir en éclaireur, pour reconnaître l'armée allemande. Cette permission accordée, Guillaume de Villardouin lâcha la bride à son cheval et, suivi de deux des siens, il alla se mettre en observation sur un monticule d'où il dominait toute la plaine. L'armée de Conradin était d'un tiers plus forte, à peu près, que celle du duc d'Anjou, et toute composée des meilleurs chevaliers d'Allemagne. Guillaume revint donc trouver Charles avec un visage sérieux, car, si brave prince qu'il fût, il ne se dissimulait pas toute la gravité de la position. Le roi causait avec un vieux chevalier français, plein de sens et de courage, bon au conseil, bon au combat. C'était le sire de Saint-Valéry. Le sire de Saint-Valéry, tout éloigné qu'il était resté des Allemands, n'avait pas moins remarqué la supériorité de leur nombre, et il essayait de calmer l'ardeur du roi, qui, sans rien calculer, voulait s'en remettre à Dieu et marcher droit à l'ennemi, lorsque, comme nous l'avons dit, Guillaume de Villardouin arriva. Au premier mot que prononça le prince, Saint-Valéry vit que c'était un renfort qui lui arrivait, et insista davantage encore pour que Charles d'Anjou se laissât guider par leurs deux avis. Charles d'Anjou alors s'en remit à eux, et Guillaume de Villardouin et Allard de Saint-Valéry arrêtèrent le plan de bataille, qui fut communiqué au roi et adopté par lui à l'instant même. On informa trois corps de cavalerie légère, composés de Provençaux, de Toscans, de Lombards et de Campaniens. On donna à chaque corps un chef parlant sa langue et connu de lui. Puis on mit ces trois chefs sous le commandement de Henri de Cosance, qui était de la taille du roi et qui lui ressemblait de visage. En outre, Henri revêtit la cuirasse de Charles d'Anjou et ses ornements royaumes, afin d'attirer sur lui tout l'effort des Allemands. Ces trois corps devaient engager la bataille, puis, la bataille engagée, paraître pliés d'abord et fuir ensuite à travers les tentes que l'on laisserait tendues et ouvertes, afin que les Allemands ne perdissent rien des richesses qu'elles contenaient. Selon toute probabilité, à la vue de ces richesses, les vainqueurs cesseraient de poursuivre les ennemis et se mettraient à piller. En ce moment, les trois brigades devaient se rallier, sonner de la trompette, et à ce signal, Charles d'Anjou, avec ses 600 hommes, et Guillaume de Villardouin avec 300, devait prendre en flanc leur ennemi et décider de la journée. De son côté, Conradin divisa son armée en trois corps, afin que le mélange des races n'amenât point de ces querelles si fatales un jour de combat. Il donna les Italiens à Galvano de Lancia, frère de cet autre Lancia qui avait été fait prisonnier à la bataille de Bénévent. Les Espagnols à Henri de Castille, le même qui avait ouvert les portes de Rome. Enfin, il prit pour lui et Frédéric les Allemands, qui l'avaient suivi du fond de l'Empire. Ces dispositions prises de chaque côté, Charles jugea que le moment était venu de les mettre à exécution. Il renouvela à Henri de Cosance et à ses trois lieutenants les instructions qu'il lui avait déjà données et cette poignée d'hommes, qui pouvait monter à 2500 cavaliers, s'avança au devant de Conradin. Les chefs de l'armée impériale, voyant au premier rang l'étendard de Charles d'Anjou et croyant le reconnaître lui-même à ses ornements royaux et à son armure dorée, ne doutèrent point qu'ils n'eussent en face d'eux toute l'armée guelfe. Or, comme il était facile de voir qu'elle était de moitié moins nombreuse que l'armée ghibelline, leur courage s'en augmenta, et Conradin, ayant fait entendre le cri de Souabe, chevalier, mit sa lance en arrêt et chargea le premier sur les Provençaux, les Lombards et les Toscans. Le choc fut rude. On avait dit au chef de ne tenir que le temps suffisant pour faire croire aux impériaux à une victoire sérieuse. Mais quand tant de braves chevaliers en vinrent aux mains, ils eurent honte de lâcher pied, même pour faire tomber leur ennemi dans une embuscade. Ils se défendirent donc avec tant d'acharnement que Charles d'Anjou ne comprenait rien à la non-exécution de ses ordres. Quitta le petit vallon, où il était caché avec ses 600 hommes, et monta sur une colline pour voir ce qui se passait. La lutte était terrible. Tous les efforts des impériaux s'étaient concentrés sur le point où ils avaient cru reconnaître le roi. Henri de Cosance avait été entouré, et craignant, s'il se rendait, qu'on ne reconnût qu'il n'était pas le vrai roi, il voulait se faire tuer. De leur côté, ses lieutenants et ses soldats ne voulaient point l'abandonner, et au lieu de fuir, tenaient ferme. En les voyant entourés ainsi et lutter si courageusement contre les forces doubles des leurs, Charles d'Anjou voulait abandonner le plan de bataille et courir à leur secours. Mais Allard de Saint-Valery le retint. En ce moment, Henri de Cosance tomba percé de coups, et les autres lieutenants, perdant l'espoir de le sauver, donnèrent l'ordre de retraite qui bientôt se changea en déroute. Alors, ce qui était prévu arriva. Les soldats de Charles d'Anjou et ceux de Conradin se jetèrent pêle-mêle à travers le camp, les uns fuyant, les autres poursuivant. Mais à peine les impériaux eurent-ils vu les tentes ouvertes, qu'attirés par les étoffes précieuses, par les vases d'argent, par les armures splendides qu'elles renfermaient, croyant d'ailleurs Charles d'Anjou tué et son armée dispersée, ils rompirent leurs rangs et se mirent à piller. Vainement, les deux jeunes gens firent-ils tous leurs efforts pour les maintenir. Leur voix ne fut point entendue, ou ceux qui l'entendirent ne l'écoutèrent point, et à peine si de leurs 5000 hommes d'armes, il en resta autour d'eux 500, avec lesquels ils continuèrent de poursuivre les fugitifs. Tous les autres s'arrêtèrent, et, rompant l'ordonnance, s'éparpillèrent par la plaine. C'était le moment si impatiemment attendu par Charles d'Anjou. Avant même que les fuyards donnassent, en sonnant de la trompette, le signal convenu, il se dressa sur ses arçons et, criant « Montjoie, Montjoie chevalier !», il vint donner avec ses 600 hommes de troupes fraîches au milieu des pillards, qui étaient si loin de s'attendre à cette surprise, que le prenant pour un détachement des leurs, qui rejoignait le corps d'armée, ils ne se mirent pas même en défense. De son côté, Villehardouin arrivait comme la foudre. En même temps, on entendit la trompette des troupes légères. L'armée de Conradin était prise entre trois murailles de fer. Avant que les Allemands eussent reconnu le piège dans lequel ils venaient de tomber, ils étaient perdus. Aussi n'essayèrent-ils pas même de résister et commencèrent-ils à fuir par toutes les ouvertures que leur présentaient, entre elles, les trois batailles de leurs ennemis. Conradin voulait se faire tuer sur la place, mais Frédéric et Galvano Lancia prirent chacun son cheval par la bride et l'emmenèrent au galop, malgré ses efforts pour se débarrasser d'eux. Ils firent 45 000 ainsi, ne s'arrêtant qu'une seule fois pour faire manger leurs chevaux. Enfin, ils arrivèrent à Astur, villa située à 1 mille de la mer. Là, ils furent reconnus pour des Allemands par des gens du seigneur de Frangipani, à qui appartenait cette villa, et qui allèrent prévenir leur maître que 5 ou 6 hommes, couverts de sang et de poussière, avaient mis pied à terre et venaient de faire prix avec un pêcheur pour les conduire en Sicile. Le départ était fixé à la nuit suivante. Le seigneur de Frangipani, après quelques questions sur la manière dont les Allemands étaient vêtus, avait appris qu'ils étaient couverts de cuirasses dorées et portaient des couronnes sur leurs casques. Ne douta plus que ce ne fussent d'illustres fugitifs. Il fut encore confirmé dans cette idée lorsqu'il apprit dans la journée que Conradin avait été battu par Charles d'Anjou. Alors l'idée lui vint que l'un de ces fugitifs était peut-être le prétendant lui-même, et il comprit que si cela était ainsi, s'il pouvait le livrer à Charles d'Anjou, celui-ci lui paierait son ennemi mortel au poids de l'or. En conséquence, s'étant informé à quelle heure les fugitifs devaient s'embarquer, il fit préparer une barque du double plus grande que celle qui leur était destinée. Il fit coucher une 20aine d'hommes d'armes, s'y rendit lui-même lorsque la nuit commença de tomber, et caché dans une petite crique, il attendit que le pêcheur mit à la voile. À peine y fut-il, qu'il l'appareilla à son tour, et comme sa barque était de moitié plus grande que celle qu'il poursuivait, il l'eut bientôt rejointe et même dépassée. Alors il se mit en travers et coupant le chemin aux fugitifs, il leur ordonna de se rendre. Conradin essaya de se mettre en défense, mais il n'avait que 4 hommes avec lui, et le seigneur de Frangipani en avait 20. Il fallut donc céder au nombre, et les deux jeunes gens furent ramenés prisonniers avec leur suite, à la tour d'Astur. Le seigneur de Frangipani ne s'était pas trompé. Il reçut de Charles d'Anjou la seigneurie de Pilose, située entre Naples et Bénévent, et livra en échange ses prisonniers au roi de Sicile. Une fois maître du dernier rival qu'il crut devoir craindre, Charles d'Anjou hésita entre la mort et une prison éternelle. La mort était plus sûre. Mais aussi c'était un exemple bien terrible à donner au monde que de faire tomber la tête d'un jeune roi de 17 ans sous la hache du bourreau. Il crut alors devoir en référer au pape et lui fit demander conseil. L'inflexible Clément IV se contenta de répondre cette seule ligne, terrible par son laconisme même. Vita Corradini, mors Caroli. Mors Corradini. Vita Caroli. Dès lors, Charles n'hésita plus. Un crime autorisé par le pape cessait d'être un crime et devenait un acte de justice. Il convoqua donc un tribunal. Ce tribunal se composait de deux députés de chacune des deux villes de la terre de Labour et de la principauté. Corradin fut amené devant ce tribunal, sous l'accusation de s'être révolté contre son souverain légitime, d'avoir méprisé l'excommunication de l'Église, de s'être allié avec les Sarrasins, d'avoir pillé le couvent, d'avoir pillé les couvents et les églises de Rome. Une seule voix osa s'élever en faveur de Corradin. Celui qui donna cette preuve de courage s'appelait Guido de Lucaria. Un seul homme se présenta pour lire la sentence. L'histoire n'a pas conservé le nom de celui qui donna cette preuve de lâcheté. Seulement Villani raconte que ce juge avait à peine fini la lecture régicide que Robert, comte de Flandre, propre gendre de Charles d'Anjou, se leva et, tirant son estoc, lui en donna un coup à travers la poitrine en s'écriant « Tiens, voici pour t'apprendre à oser condamner à mort un aussi noble et si gentil seigneur. » Le juge tomba en jetant un cri et expira presque au même instant. Et il n'en fut pas autre chose de ce meurtre, ajoute Villani. Le roi et toute sa cour ayant reconnu que Robert de Flandre venait de se conduire en vaillant seigneur. Conradin n'était pas présent lorsque l'arrêt fut prononcé. On descendit alors dans sa prison et on le trouva jouant aux échecs avec Frédéric. Les deux jeunes gens, sans se lever, écoutèrent la sentence que leur lut le greffier. Puis, la lecture achevée, ils se remirent à leur partie. Le supplice était fixé pour le lendemain 8h du matin. Conradin y fut conduit accompagné de Frédéric, duc d'Autriche, des comtes Gualferano, Bartolomeo Lancia, Gérard et Gavano d'Onoratico de Pise. La seule grâce que Charles d'Anjou lui eut accordée était d'être exécuté le premier. Arrivé au pied de l'échafaud, Conradin repoussa les deux bourreaux qui voulaient l'aider à monter l'échelle et monta seul d'un pas ferme. Arrivé sur la plateforme, il détacha son manteau, puis s'agenouillant, il pria un instant. Pendant qu'il priait, ayant entendu le bourreau qui s'approchait de lui, il fit signe qu'il avait fini, et se relevant en effet, « Ô ma mère, dit-il à haute voix, quelle profonde douleur te causera la nouvelle qu'on va te porter de moi ?» À ces mots, qui furent entendus de la foule, quelques sanglots éclatèrent. Corradin vit que parmi ce peuple, il lui restait encore des amis, et peut-être des vengeurs. Alors il tira son gant de sa main et le jeta au milieu de la place. « Au plus brave » cria-t-il. Et il présenta sa tête au bourreau. Frédéric fut exécuté immédiatement après lui, et ainsi s'accomplit la promesse que les deux jeunes gens s'étaient faite, que la mort même ne pourrait les séparer. Puis vint le tour de Gualferano et de Bartolomeo Lancia, et des comtes Gérard et Gavano d'Onoratico de Pise. Le gant jeté par Conradin au milieu de la foule fut ramassé par Henri d'Apifero, qui le porta à Dom Pierre d'Aragon, seul et dernier héritier de la maison de Souabe, comme Marie de Constance, fille de Manfred. Note. L'excommunication contre la maison de Souabe remontait à Frédéric H. Ce fut à propos de cette excommunication qu'un curé de Paris, chargé de proclamer l'interdit et ne voulant pas se prononcer entre deux antagonistes aussi puissants, s'acquitta de cette difficile mission en laissant tomber du haut de la chaire ces paroles pleines de sens. J'ai ordre de dénoncer l'empereur comme excommunié. J'ignore pourquoi. J'ai appris seulement qu'il y avait un grand différend entre lui et le pape. Je ne sais de quel côté est le bon droit. En conséquence, autant que je le puis, je donne ma bénédiction à celui des deux qui a raison et j'excommunie celui qui a tort.